Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Margot Laurie, dont Bertie Bourdon, Rosalie Sucre, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Florent Bujon. On poursuit notre semaine consacrée à l'Ukraine. Lundi, nous avons remonté le temps jusqu'à la Révolution Orange de 2004 pour décrypter la politique intérieure ukrainienne et ses 15 années de faillite des élites politiques. Mardi, nous nous sommes intéressés à l'économie ukrainienne et plus particulièrement à la question du gaz. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question des frontières, alors qu'un nouveau sommet au format Normandie est organisé à Paris la semaine prochaine, du Donbass à la Crimée. Stabiliser les frontières, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui.
Le peuple ukrainien m'a confié la recherche des compromis difficiles dans le processus de Minsk. La fin de la guerre, le retour des territoires ukrainiens annexés, c'est ma tâche principale. Mais je suis conscient qu'il est impossible d'établir la paix par la voie des armes.
C'est ce que nous avons discuté, c'est ce que nous allons discuter avec la chancelière et avec le président Poutine. Et en fonction, justement, des éléments et des gestes que sont prêts à faire les deux parties dans le droit fil des accords de Minsk, on pourra envisager une réunion en format Normandie.
Il vient juste d'être annoncé que le groupe de contact est parvenu à un accord sur le retrait des forces dans la région pilote de Petrovsk le 4 novembre prochain. Nous allons donc dans la bonne direction. Mais tout d'abord, nous devons mener ces actions jusqu'au bout. Et ensuite, nous aimerions voir le retrait des forces armées le long de toutes les lignes de contact.
Dans l'ordre, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, Emmanuel Macron et puis Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. On prend les mêmes et on recommence, enfin presque. Le lundi 9 décembre, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky vont se réunir à Paris pour tenter de faire avancer le processus de paix à l'est de l'Ukraine. Ce sommet dit au format Normandie n'est pas le premier du genre. En effet, en 2015, les responsables russes, ukrainiens, français et allemands s'étaient déjà réunis à Minsk pour se mettre d'accord sur des mesures visant à mettre un terme à la guerre dans le Donbass. Mais force est de constater qu'il n'est pas parvenu à régler la question et que ce fameux accord dit de Minsk n'a pas été complètement appliqué, respecté par les deux parties. Depuis le début du conflit armé, il y a 5 ans, la guerre a fait plus de 13 000 morts et la ligne de front continue d'être le théâtre d'affrontements réguliers, même si récemment, les fusils se sont tus pour laisser une chance à la paix. Mais alors, que peut-on attendre de ce nouveau sommet? Mais l'élection de Volodymyr Zelensky, qui a fait de la paix justement, l'un des éléments clés de sa campagne, va-t-elle changer la donne? Et outre le Donbass, la Crimée redeviendra-t-elle un jour à la table des négociations? Il y a 25 ans exactement, le 5 décembre 1994, l'Ukraine signait le mémorandum de Budapest par lequel elle acceptait le démantèlement de son arsenal nucléaire contre le respect de son intégrité territoriale. Force est de constater qu'un quart de siècle plus tard, ses frontières sont au cœur d'enjeux diplomatiques de premier plan et on va en parler aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons invité Christine Dugoin-Clément. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au think tank CAP Europe, le centre d'analyse de politique étrangère, et également membre du CREC de Saint-Cyr et de Paris, de Sorbonne Paris. À vos côtés, Antoine Arjakovski. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes historien, directeur de recherche au Collège des Bernardins. Vous avez été à l'initiative d'une commission vérité, justice et réconciliation entre la Russie et l'Ukraine avec la médiation de l'Union Européenne. On aura peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs ce matin. Puis vous êtes auteur notamment de cet ouvrage Occident-Russie, comment sortir du conflit, qui était paru chez Ballant. Dans quelques jours va s'ouvrir donc ce nouveau cycle de négociations au format Normandie, comme on dit, donc avec l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne. Ça faisait depuis 2016 qu'il n'y avait pas eu de rencontre sous ce format. Christine Dugoin-Clément, jusqu'où est-ce qu'on peut mettre cette reprise de discussion au crédit de Zelensky, le nouveau président ukrainien?
Alors, le nouveau président ukrainien, comme vous le disiez, a fait de la fin de la guerre une priorité dans son mandat, en arrivant dans une situation délicate, compliquée, vu qu'on était en pause depuis maintenant plusieurs années après l'accord de Minsk, sans avancée réelle. Il est effectivement très proactif. On le voit notamment dans les actions qui sont assez quantifiables. Hein. Le 5 septembre, vous aviez des échanges de prisonniers assez importants entre l'Ukraine et la Russie. En octobre, l'Ukraine expliquait que elle elle donnait un accord pour la formule Steinmeier. Et le 12 novembre, elle annonçait avoir rempli les conditions demandées pour pouvoir lancer un format Normandie. Donc on voit qu'on a cette volonté de pouvoir arriver à au moins une discussion permettant d'essayer d'avoir des avancées. Quelle en sera l'issue ? Il est encore un petit peu trop tôt pour le dire, bien évidemment.
On va en discuter, évidemment. Mais en tout cas, vous dites oui, Zelensky a été très proactif sur cette question.
Il y a une volonté très forte. Il en a fait un axe fort de son mandat et il se met dans cette dynamique.
Antoine Arjakovski, on va évidemment détailler les choses, revenir sur cette fameuse formule Steinmeier, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut revenir. Mais si on regarde maintenant du côté de la Russie, est-ce que vous sentez aujourd'hui Moscou encline à rentrer effectivement dans de vraies négociations et pourquoi pas avoir un accord? Il y a eu le préalable de ce cycle de discussion, c'était ce retrait à la fois des soldats ukrainiens mais aussi des séparatistes pro-russes de la ligne de front. Tout le monde s'est retiré d'un kilomètre, tout cela sous le regard d'observateurs de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Est-ce que ce retrait, il nous montre une bonne volonté, y compris de la part de Moscou? Vous hésitez.
C'est-à-dire que c'est assez complexe comme affaire. Le président Poutine n'a jamais vraiment voulu du Donbass. C'est pas son objectif. Le Donbass, c'est une région compliquée. C'est une région qui peut coûter cher, qui était riche parce qu'elle avait des mines, mais qui ne sont plus vraiment exploitables, avec une population qui a été beaucoup marquée par la période soviétique et qui est pas forcément des plus dynamiques en termes économiques, sociaux. Il y a très peu d'associations, etc. Donc son objectif, ce n'a jamais été le Donbass. Donc qu'il accepte d'avancer sur des questions comme le cessez-le-feu, l'échange des prisonniers, ça ne touche pas sa ligne stratégique fondamentale qui est, alors là, c'est là où commencent les différentes interprétations, mais en tout cas, les Ukrainiens disent que sa ligne fondamentale, c'est de déstabiliser l'Ukraine, de vouloir éviter que l'Ukraine se rapproche trop et de l'OTAN et de l'Union européenne. Et là, sur ces sujets-là, il est toujours... je dirais, il gagne, il est en avance, il marque des points. Le fait que aujourd'hui on sent une déstabilisation du camp occidental, en particulier du fait que le président Macron, depuis sa rencontre au fort de Brégançon avec le président Poutine, a déclaré un reset, une sorte de relance des relations entre la France et la Russie, alors que le président Hollande était à la fin de son mandat extrêmement réticent pour un reset. C'est la raison pour laquelle les derniers accords...
Il a été d'ailleurs très critiqué. Sur ce point.
Oui, il a refusé de
pas par vous, de recevoir. Pas par vous, mais par d'autres.
Voilà. Il a refusé de recevoir le président Poutine. Il a refusé de donner les navires Mistral, etc. Là, il y a un reset de la part du président Macron et on voit bien avec les négociations qui ont eu lieu à Londres dans le cadre de l'OTAN, que ça divise le camp occidental. Au niveau européen, il y a aussi une division entre d'un côté les pays baltes, les Polonais qui disent « mais vous êtes fous, la Russie est extrêmement dangereuse, il faut faire attention », et la France et l'Allemagne qui ont leurs intérêts économiques.
Reset, Christine Dugoin-Clément, ça ne veut pas dire que la France n'a pas de plan pour ce sommet du 9 décembre. Quel est le plan de Macron? Parce que pour lui, ça serait quand même un bon résultat que d'avoir justement un accord. Quelle est la stratégie française pour essayer d'arracher un accord?
Alors, la délicatesse, tout du moins que l'on aura probablement sur le sommet, c'est que différents acteurs, différentes stratégies, serais-je tenté de vous dire. Donc effectivement, au niveau européen et plus particulièrement français, arriver à une solution de sortie de crise serait très positif. Déjà, ça permettrait aussi d'asseoir un certain leadership en termes de politique étrangère, et pour la France et pour les Européens. Donc ça serait effectivement bénéfique. Et puis, bon, on arrêterait quand même le conflit. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas non plus faire l'impasse.
On a une stratégie pour ça? Emmanuel Macron a une stratégie, une proposition, un plan de sortie?
Alors, on verra exactement quelles sont précisément ses propositions. On part aussi du principe que l'on aurait un créneau, une fenêtre de tir, si je puis dire, vu le contexte de la discussion. Parce que ce que disait mon collègue est très juste, c'est-à-dire que le Donbass coûte cher. Donc il y a une lassitude à l'entretenir et finalement, quelle est l'utilité maintenant d'entretenir donc cette espèce de territoire avec un conflit gelé, réchauffable plus ou moins à volonté et qui coûte très cher. Une victoire pyrrhique inversée, si je peux dire, serait peut-être plus profitable. C'est-à-dire que l'on garde une partie d'un territoire abîmé, socialement et économiquement assez dévasté, qui représente donc un facteur de faiblesse pour l'Ukraine, quelque chose qui sera compliqué aussi à remettre en œuvre d'un point de vue social, puisque vous avez des populations qui ont été très fortement divisées par plusieurs années de guerre. Et puis, sans emporter
d'autres
le coup économique.
D'autres qui ont été carrément déplacés, hein, on les oublie.
Il y a énormément, on ne les oublie pas. Il y a eu plusieurs vagues. Très clairement, quand un conflit arrive, il y a ceux qui peuvent d'abord, ceux qui font ensuite par nécessité, et malheureusement, tous ceux qui sont obligés de rester, puis quelques qui y trouvent un intérêt.
Antoine Arjakovski, sur la stratégie française ou non, quel est le plan de sortie? Qu'est-ce qu'on imagine? Et puis ensuite, on reviendra sur ce fameux plan Steinmeier, qui était déjà une première feuille de route sur laquelle il va falloir se pencher.
Oui, ça fait des années, depuis l'échec de la dernière réunion à Berlin du format Normandie en 2016, en octobre 2016, qu'on essaie d'avancer côté français en écoutant ce qu'on dit au niveau de l'OSCE, de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Il y a eu plusieurs plans, et y compris un plan français, celui de Pierre Morel, qui a été ambassadeur de France en Russie et qui est très actif. Il fait partie du groupe trilatéral qui se réunit à Minsk et qui a été refusé par l'Ukraine à l'époque de Porochenko, mais qui a été relancé l'année dernière par Sajdik, qui est l'actuel, qui était responsable de l'OSCE à Vienne, et qui a fait un plan qui consiste à dire que pour appliquer les accords de Minsk, on est toujours sur cette idée de mettre en œuvre les accords de Minsk, il faut pouvoir organiser des élections, mais que pour permettre l'organisation d'élections, il faut que l'OSCE soit plus présente sur place, de telle façon à organiser le retour des réfugiés, une certaine démilitarisation, un échange des prisonniers, et finalement un référendum qui permettrait au bout du compte aux habitants du Donbass de se déterminer. Finalement, c'est ça la position française qui est encore en cours, c'est de dire bah il faut que les habitants du Donbass se démilitarisent. Il y a un conflit qu'on continue à imaginer comme étant un conflit de guerre civile, de type guerre civile. On veut pas admettre que c'est une réelle invasion de la Russie pour déstabiliser l'Ukraine et pour essayer de conserver la Crimée, parce que ça faisait partie aussi du jeu. Et donc, voilà, si c'est une guerre civile, il faut qu'ils se mettent d'accord et qu'on puisse organiser un référendum.
Alors, ce qui est intéressant et ce sur quoi il faut peut-être se pencher, c'est la séquence, parce que tout est une histoire d'ordre, en fait, dans tout ça. Dans quel sens on prend les choses? Est-ce qu'on commence par les élections? Est-ce qu'on commence par la question du contrôle des frontières? Et précisément, il trouve que Volodymyr Zelensky a donné une interview au Monde en début de semaine, dans laquelle il explique, lui, qu'il veut d'abord obtenir un échange de prisonniers pour libérer les Ukrainiens qui sont détenus par la Russie, obtenir un vrai cessez-le-feu. Et ça, c'est les deux préalables pour éventuellement parler ensuite d'élections. Est-ce que Poutine, Christine Dugoin-Clément, est disposé à lâcher sur ces deux conditions? Est-ce qu'il est d'accord pour n'envisager les élections qu'après ces deux conditions? C'est ce que veut Zelensky.
Alors c'est justement un des points durs du problème, c'est sur l'implémentation des différentes phases de la formule. L'Ukraine dit qu'il faut d'abord gérer le volet militaire de manière générale, contrôle des frontières, recul de l'armement lourd, cesser le feu durable, et qu'ensuite on procéderait au volet politique.
Poutine est d'accord avec ça?
Eh bien justement pas. C'est-à-dire le volet de l'implémentation sous la formule, donc la législation ukrainienne, etc. De l'autre côté, on dit non, on va d'abord mettre en place un volet politique, et ensuite nous gérerons la problématique des frontières. Or, et là on peut tout à fait comprendre la position ukrainienne, qui est de dire déjà, comment voulez-vous qu'on ait des élections qui se tiennent sous la législation ukrainienne, avec des candidats de partis ukrainiens qui soient en mesure d'aller faire une campagne dite de ce nom dans le Donbass, alors que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Comment voulez-vous que l'on puisse faire voter les déplacés? Donc on aura un jeu de dupes. Et ensuite, ça veut dire un statut spécial, puisqu'il faut organiser les choses. Donc là-dessus, c'est très compliqué. Or, l'Ukraine se dit parfaitement, et avec raison, quand on a été un peu observateur des différentes observations, notamment d'influence qui ont eu lieu sur le territoire ukrainien, de se dire qu'on peut tout à fait avoir, dans ce cas-là, des candidats et des élus qui viendraient des territoires du Donbass, qui seraient complètement à la solde de volonté exogène et qui pourraient être des éléments paralysants dans la politique ukrainienne qui a déjà bien du mal à s'organiser et à se structurer.
Antoine Arjakovski, pourquoi Poutine ne veut pas lâcher sur ce point? Pourquoi il veut que ça soit d'abord des élections? Et au fond, pourquoi est-ce qu'il tient autant à des élections?
Actuellement, si rien ne change et s'il y avait des élections demain, il gagnerait ces élections. Parce que les médias sur place sont des médias à sens unique. C'est une sorte de propagande. Il n'y a pas du tout de médias ukrainiens. Donc tout ce qu'on explique aux habitants du Donbass, c'est que s'ils vivent mal, s'il y a la guerre, s'il y a tous les jours des gens qui sont emprisonnés, il y a quand même plus de 200 otages dans le Donbass aujourd'hui, c'est la faute du gouvernement ukrainien, c'est la faute de l'Occident, etc. Bien évidemment, comme le dit Christine très bien, il faut... Nous, en France, on a eu un problème un jour avec la Nouvelle-Calédonie. On a mis 20 ans avant de considérer que les conditions étaient réunies pour qu'il y ait un nouveau référendum, pour qu'il y ait un référendum permettant aux habitants de Nouvelle-Calédonie de se déterminer. Alors que là, on voudrait, en 6 mois, changer complètement la mentalité des gens sans leur procurer ce qui est essentiel, c'est-à-dire la sécurité. Sentiment que s'ils vont voter selon leurs propres convictions, ils vont pas se faire arrêter le lendemain et torturer comme ça arrive dans les caves de Donetsk.
Il y a un certain nombre de personnes en Ukraine qui ont peur que finalement Zelensky cède trop à Poutine. Et c'est d'ailleurs un discours qu'on a entendu précisément au moment de l'échange de prisonniers que vous évoquiez tout à l'heure, Christine Dugoin-Clément, ce qui portait sur 70 personnes, dont le cinéaste Oleg Sentsov, qu'on a eu la chance d'entendre à ce micro ici à France Culture. Mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que effectivement on est dans une situation où Zelensky risque de céder face à Poutine?
Alors, ce qui permet de formuler ces craintes réside dans plusieurs causes. L'une d'entre elles est que quand, lors de son discours d'investiture, le tout nouveau président Zelensky a déclaré qu'il voulait la fin de la guerre à tout prix. Ce qui a été extrêmement compliqué à entendre, notamment pour des militaires, des familles de militaires, qui ont payé le prix fort et le prix du sang depuis ces années de conflit. Donc il y a eu une partie de mouvement qui était pas de capitulation, c'est-à-dire on ne capitule pas, on veut une solution, etc. Donc ce principe-là, vous voulez la fin de la guerre à tout prix, d'accord, à tout prix, ça peut être le prix du président Poutine. Donc ça, c'est un des premiers éléments de crainte. D'autres éléments ont joué, notamment vous parliez de l'échange de prisonniers. Il y a un prisonnier dont le nom vous sera peut-être pas tout à fait familier, qui a fait partie de ces échanges, qui est Volodymyr Tsemakh, qui était impliqué dans la chute du MH17. Et beaucoup dans cet échange de prisonniers ont vu là quelque chose de très maladroit de la présidence ukrainienne, en disant attention, on est sur quelque chose qui est un hotspot du conflit, et vous renvoyer une personne clé. Donc on a énormément de choses comme ça qui sont compliquées. Par ailleurs, on est sur un président jeune en termes de négociations internationales qui va se retrouver face à des personnes très expérimentées que vous avez à Moscou. Quand on a entendu parler le ministre Lavrov tout à l'heure, qui est extrêmement fin dans ce type de négociations. Donc on a tout ce genre de choses. Vous ajoutez en plus une autre couche, donc on est vraiment sur du multicouche.
Il est jeune, mais il a le soutien des Européens.
Il est jeune, mais il a le soutien des Européens. Néanmoins, à la table des négociations, c'est toujours assez délicat quand vous êtes avec quelqu'un qui est très très fin et qui connaît les règles du jeu par cœur. Un autre point, c'est que la position française avec le retour donc à la discussion a échaudé énormément de pays européens, comme cela a été dit au début. Et en Ukraine, ça a été assez violent, assez mal compris. On a été aussi acteur du retour de la Russie donc au niveau du PAS. Et comme la France est à la manœuvre sur le sommet, beaucoup peuvent dire, bah oui, mais si la France est dans une position trop bienveillante face à la Russie, avec un président jeune qui veut absolument aller à la fin du conflit, bah peut-être que... Donc il a essayé de rassurer beaucoup en ce sens-là, notamment dans l'interview que vous avez citée au Monde.
Antoine Arjakovski, est-ce qu'il y a effectivement des craintes justifiées que de voir un Zelensky finalement trop céder à Poutine? Et la phrase que je lançais un peu sous forme de provocation, il a le soutien des Européens, c'est une chose qu'il faut discuter justement. Jusqu'où va ce soutien des Européens, le soutien français, le soutien allemand?
Oui, il y a aussi une fatigue du côté français, du côté allemand. Les Allemands veulent faire avancer leur projet de Nord Stream 2. Les Français veulent faire du commerce avec la Russie, veulent régler les problèmes du monde et veulent pas s'arrêter à la question du Donbass. Donc si à l'époque de Porochenko, il y avait un clair soutien de la France et de l'Allemagne, en tout cas Porochenko était assez ferme pour avoir quand même une certaine position de clarté de la France et de l'Allemagne le soutenant. Aujourd'hui c'est moins évident et donc on peut s'interroger. Cela dit, le fait que depuis 3 trois mois, on parle en Ukraine tous les jours de cette prochaine réunion du format Normandie. Et comme ça a été dit, effectivement, il y a eu immédiatement des révoltes dans la rue lorsque le ministre des Affaires étrangères, Pristaïko, a dit qu'il acceptait la formule Steinmeier. Je crois que Zelensky et son ministère des Affaires étrangères, le MZS, ne va pas faire des ouvertures importantes à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que ils viennent à Paris parce qu'ils ont tous le sentiment qu'ils ont gagné déjà. Zelensky, il le dit dans son interview au Monde, il gagne parce qu'il rencontre Poutine et il veut montrer à son opinion publique que lui rencontre Poutine alors que Porochenko, ça faisait des années qu'il n'avait pas rencontré Poutine. Et donc le seul fait d'être dans le cadre de ce format Normandie qui s'était pas réuni depuis trois ans, c'est déjà une victoire. Le président Poutine, il a le sentiment aussi d'avoir déjà gagné dans le sens où depuis sa rencontre au fort de Brégançon, le président Macron a lancé sa politique de reset avec la Russie et donc avec toutes les conséquences, on le voit, de division du monde occidental. Il ne peut que gagner à Paris, il peut peut-être obtenir des contreparties sur le gaz, des contreparties sur le prochain procès qui va avoir lieu sur le MH17. Il n'est en position gagnante. Quant au président français, il fait ça à Paris pour montrer que face aux grands ensembles, les États-Unis, la Chine, il est capable de trouver langue commune avec la Russie pour former un troisième bloc et permettre une certaine multilatéralisme.
Ça ne marche que s'il a un résultat à la clé. Sinon, personne ne dira que c'est déjà formidable de les avoir reçus.
Il y aura forcément, on le voit déjà, sur le cessez-le-feu, une avancée. Il y aura forcément une avancée sur de possibles échanges de prisonniers qui vont pas rien changer sur le fond en réalité parce que on voit bien que on avait cru au mois de septembre que voilà Sentsov est libéré. En réalité, il y a aujourd'hui encore 300 prisonniers. Donc
mais ça mettra un vernis qui laissera apparaître que Paris est aussi et les Européens sont aussi gagnants. Christine Dugoin-Clément, et la Crimée alors. Zelensky a dit dans son interview au Monde. Moi, j'aimerais bien pouvoir en parler à Paris, mais éventuellement, je suis prêt à en parler à un autre moment, dans un autre cadre. On sait bien qu'a priori, du côté de la Russie, il n'est pas trop prévu d'en parler. On va en parler de la Crimée ou pas ?
Alors, la Crimée, c'est...
C'est entériné, ça y est, on n'en parle plus.
Alors, c'est au niveau de la Russie, ce qui est important de voir, c'est on est sur le fait accompli. Les choses sont comme elles sont et il est fort peu probable que l'on envisage même d'évoquer le sujet. Pour plusieurs raisons. Il y a un enjeu stratégique, l'accès aux mers chaudes. Il y a aussi une projection de puissance vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire cette annexion, parce que c'est bien une annexion totalement illégale, qui a permis aussi de faire un ciment interne au niveau russe, c'est-à-dire regardez, on est capable de faire, on peut changer l'ordre international. Et puis il y a eu aussi un autre point qui me semble intéressant de lever quand on parle de la Crimée, qui était quand même une opération opportuniste et non reproductible dans d'autres situations, parce que là il y avait quand même tous les éléments qui faisaient que la Russie a pu pousser. C'est que la réaction très faible qui s'est suivie de l'annexion de la Crimée a permis aussi à la Russie de tirer des conséquences quant à la capacité de réaction des Occidentaux. C'est-à-dire que effectivement, tout le monde a dit facilement c'est pas bien, il ne faut pas, bon, très bien, sanctions, parfait, exclusion du pass, tout à fait bien. Là, la Russie a réintégré le pass, la Crimée est toujours pas revenue. Donc on est aussi dans ce jeu-là, si vous voulez, de tester la capacité de gonfler les muscles et de voir quelle va être la réaction en face et de s'adapter dans une analyse des risques fines avec un calcul de coûts-conséquences, puisque l'outil militaire est utilisé assez facilement. Dans ce cadre-là, alors on peut le désilhouetter, on peut utiliser différentes manières, voire inframilitaires, mais on est dans ce cadre-là.
Pardon, juste une toute petite parenthèse, exclusion, intégration du PASS, c'est le Conseil de l'Europe.
Oui, voilà. Excusez-moi.
Non, mais je vous en prie, c'est pour préciser aux auditeurs. Poursuivez.
Excusez-moi, tout à fait. Et la Crimée, effectivement, c'est quelque chose dont l'Ukraine parle, en disant c'est un territoire au même titre que le Donbass. Mais je suis pas sûre qu'ils aient énormément d'espoir. Et d'ailleurs, quand on parle de la Russie vous parle pas du tout de la Crimée, et parle des territoires du Donbass.
Antonin Jakovski, c'est une affaire scellée, la Crimée, y compris dans la tête des Européens.
Non, pas dans la tête des Européens, puisqu'il y a toujours des sanctions sur la Crimée. C'est vrai qu'elle n'est pas à l'ordre du jour de la prochaine réunion qui va avoir lieu à l'Élysée. Et pour moi, c'est la marque que la stratégie actuelle des trois acteurs, la Poutine, Zelensky, Macron et Angela Merkel, n'a pas... n'a pas de chance de réussite sur le long terme. C'est du vernis, comme on disait tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle...
Mais Poutine a dit, je ne parlerai pas, je ne me mettrai pas à la table de négociation si on parle de la Crimée. Si vous voulez parler, il faut évacuer la Crimée, ou alors vous parlez pas.
Oui, mais ça n'est pas durable comme position, parce que, bon, déjà, je le dis souvent, la situation actuelle de la Crimée n'est pas tenable sur le long terme. Tout simplement, il n'y a pas d'eau potable en Crimée, il y a un problème d'électricité, il y a une zone de non-droit qui se constitue, il y a un isolement, etc. Donc, il faudra bien un jour reparler de la Crimée. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé au Collège des Bernardins, avec l'Académie Mogila, l'Université catholique d'Ukraine, l'Association Mémoriale, une proposition alternative aux négociations actuelles, complémentaires.
Parlez-nous justement de cette commission et de ces...
Bah, je suis heureux de pouvoir en parler parce qu'effectivement...
Des différents points qui sont évoqués.
Voilà, on vient de sortir un rapport avec 36 propositions. C'est le résultat de 2 ans de travaux où on a réuni plus de 150 universitaires intellectuels de Russie, d'Ukraine, d'Europe occidentale pour dire il faut trouver des solutions durables efficaces, qui répondent aux intérêts stratégiques des nations russes, ukrainiennes et européennes.
Donnez-nous quelques points, justement, principaux.
Alors, on part d'abord, il y a des positions de principe, c'est-à-dire, on veut défendre le droit international, on considère qu'il y a un agresseur, un agressé.
Faut appliquer l'accord de Minsk, etc.,
voilà.
etc.
Donc, on part de ça. Et puis aussi de certaines attitudes, c'est-à-dire qu'on ne considère pas, comme c'est de plus en plus en vogue en France de le dire, que la France doit être médiatrice et ne doit pas avoir une position... La France doit avoir une position neutre. Non, la France ne peut pas avoir une position neutre. La France défend les droits de l'homme, la démocratie, le droit international, et donc défend en premier lieu l'Ukraine. Voilà. Donc cette politique d'apaisement qui est actuellement en vogue à l'Élysée, soutenue par des gens comme Hubert Védrine, etc., on considère que c'est pas la bonne position. Il faut être clair, il faut dire, on soutient le droit international, donc on soutient la personne, le pays qui a agressé. Bon, il y a certaines positions, mais à partir de ces positions-là, on n'est pas d'accord non plus avec la position d'un certain nombre d'Ukrainiens qui considèrent que Poutine est là pour longtemps et qu'on peut rien faire tant que Poutine est là, qu'il faut juste résister, aucune négociation n'est possible. Voilà, ce qui est un peu la position de Lexensov. Et du coup, une fois qu'on est ni dans la position ultra-ukrainienne ou ultra-française, on dit il y a des propositions concrètes à faire, et notamment, par exemple, remettre dans le jeu l'Union européenne. L'Union européenne a été marginalisée jusqu'à présent. L'OSCE n'est pas du tout partie prenante.
Elle est là en tant que médiateur dans ce sommet-là, l'Union européenne. Alors c'est la France et l'Allemagne, soit.
Mais c'est la France et l'Allemagne. C'est pas le service européen d'action extérieure. Et ça change tout parce que du coup, les Polonais ont peur de ce qui va se passer à Paris. Les Baltes ont peur. Il y a un risque réel de division de l'Union européenne. Macron joue avec le feu.
Raison pour laquelle, et je vous donne la parole dans un instant, mais raison pour laquelle, parmi les points justement que vous évoquez, il y en a un sur lequel je voudrais vous entendre. Vous dites qu'il faut absolument mettre en place un travail de réflexion conjoint Union européenne-OTAN, mais aussi Russie-Ukraine sur l'avenir de la sécurité en Europe. C'est-à-dire que pour vous, au-delà de la question de la Crimée, du Donbass, etc., etc., il faut maintenant jouer franc jeu et mettre carte sur table sur ce que doit être la sécurité européenne de demain. Ça fait partie des négociations.
Oui, et là on rejoint tout à fait... le président Macron, qui l'a dit lui-même, il faut des accords d'Helsinki 2, il faut repenser le rôle de l'OTAN, il faut sortir du logiciel de la guerre froide. Là-dessus, il a raison. On doit faire preuve d'imagination. Parce que sinon, on retombe dans les travers de la guerre froide. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est que ça, bien entendu, qu'il faut imaginer ce que pourrait être une Europe où toutes les parties se sentent en sécurité, y compris la Russie. Je dirais que c'est la politique de la carotte, mais cette politique de la carotte, elle est complémentaire de la politique du bâton. Il ne faut pas privilégier l'une par rapport à l'autre.
Christine Dugoin-Clément, sur ce dernier point en particulier, il y a quelques années, juste après justement les accords de Minsk, juste après l'annexion de la Crimée par la Russie, le ministre des Affaires étrangères tchèque, Karel Schwarzenberg, avait dit « l'avenir de l'Europe se joue en Ukraine ». Pour dire combien, au fond, il y avait là un enjeu fondamental, il faut défendre les valeurs de l'Europe, défendre une certaine vision stratégique de la sécurité européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?
Je pense qu'il l'a dit avec raison, et on le voit d'ailleurs là sur les divisions que le sujet ukrainien donne au niveau européen. Si on n'arrive pas effectivement avec une position unifiée et cohérente, eh ben quelque part, On laisse une opportunité de mettre des coins dans un ensemble qui est disparate pour plusieurs raisons, et donc d'avoir un système d'affaiblissement. Si on laisse la Russie arriver dans ce genre d'approche, eh bien, on en paiera des conséquences en interne. Alors, c'est une crainte aussi que ressentie chez les Ukrainiens. Très récemment, donc, Monsieur Kouleba, qui est en charge de l'intégration UE et OTAN, expliquait que il ne laisserait absolument pas la Russie mettre le moindre brin de division avec les alliés de l'Ukraine, donc comprendre à la table des négociations au sommet, ou entre le gouvernement ukrainien et le peuple. C'est-à-dire que cette crainte de division, elle est extrêmement forte et elle est assez justifiée. Si on regarde depuis le début, ben là effectivement les dernières déclarations, ça a été dit très justement, hein, en Pologne et dans les pays baltes c'est extrêmement compliqué, même au niveau de l'Union européenne c'est un petit peu délicat. Mais quand vous parlez de valeurs libérales, moi je vous renverrai quand même.
J'ai pas dit valeur libérale.
Enfin, de valeur, de valeur européenne. Excusez-moi.
Non, je vous en prie.
Néanmoins, je renverrai quand même à une déclaration donc du président russe Vladimir Poutine himself, qui à Valdaï expliquait que l'ordre mondial qui était basé sur des valeurs libérales pour le coup et sur des normes occidentales était mort et enterré. Ce qui veut donc dire que on n'est pas forcément dans la même approche, on n'est pas dans le même paradigme. Et quand vous voulez faire un accord, le problème est ce que vous voulez vous et ce que veut l'autre et ce qu'il est capable de vouloir. Et si vous n'êtes déjà pas sur la même échelle d'attente ou de valeur, sur ne serait-ce que la même perception de ce qu'est une frontière, c'est extrêmement compliqué. Et plus vous allez avoir d'avis divergents, plus ce sera compliqué d'avoir un accord. Et si je suis par exemple celui qui n'a pas intérêt à avoir un accord, j'ai intérêt à avoir le maximum d'avis divergents.
Vous parlez des frontières et ça tombe bien, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde, stabiliser les frontières ukrainiennes. Ça fait longtemps qu'il en est question, puisque ça fait au moins 25 ans, 5 décembre 1994, mémorandum de Budapest par lequel l'Ukraine accepte la dénucléarisation de son territoire contre le respect de son intégrité territoriale et le respect donc de ses frontières. À l'époque, la Russie précisément avait signé, mais c'était pas la seule. Je propose d'écouter, c'était il y a un peu plus de 25 ans, quelques jours avant, le 22 novembre 1994, et à l'époque c'était Bill Clinton qui était président des États-Unis.
Depuis son élection il y a 5 mois, le président Kouchma a bravement et franchement affronté les deux grands enjeux auxquels l'Ukraine doit faire face, les réformes économiques et la question nucléaire. Je salue son leadership ainsi que celui de son Parlement suite à leur adhésion au traité de non-prolifération nucléaire. La décision qu'a prise l'Ukraine est un pas majeur et nous assure que les missiles nucléaires ne menaceront plus jamais les enfants de nos nations. J'ai dit au président Kouchma que les États-Unis continueront à travailler avec l'Ukraine pour démanteler complètement son arsenal nucléaire. Par ailleurs, la décision ukrainienne permettra aux États-Unis, à la Russie et au Royaume-Uni d'assurer l'Ukraine de leur protection.
La Russie, États-Unis et Royaume-Uni qui avaient justement signé ce mémorandum de Budapest, c'était il y a exactement 25 ans. Antoine Arjakovsky, vous êtes historien, peut-être quelques mots sur le contexte que les auditeurs se souviennent, le contexte dans lequel on a signé cet accord. Et puis, ce que vous inspire le fait que 25 ans plus tard, alors même qu'on s'était mis d'accord sur les frontières de l'Ukraine, on soit aujourd'hui en train de discuter sur ces différents territoriaux, sur ces différents frontaliers. Qu'est-ce qu'on a raté dans le processus? Alors, je ne sais pas si il y a quelque chose qui n'a pas marché après l'effondrement de l'URSS. Qu'est-ce qu'on a raté?
Alors sur le contexte, il faut rappeler donc 94, c'est donc simplement 3 ans après la fin de l'Union soviétique, qui a été proclamée le 8 décembre 1991. Or justement là, il va y avoir un anniversaire la veille du 9 décembre des rencontres à Paris. Le président Poutine va finalement faire passer son rêve, à savoir de créer un parlement commun avec la Biélorussie. Donc là, Loukachenko vient d'accepter ça. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Donc la veille de la rencontre à Paris, une sorte de fusion se fait entre les élites politiques de Biélorussie et de Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté du monde communiste, on n'a pas accepté l'effondrement de l'Union soviétique. Ça, je pense que c'est un point très important qu'il faut avoir en vue, surtout quand on connaît la psychologie du président Poutine, qui était en Allemagne de l'Est, un agent des services secrets russes, du KGB de l'époque.
Il avait dit, Poutine, à propos de l'effondrement de l'URSS, que c'était la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle.
Il a dit ça. Et donc, on comprend qu'il y a une volonté de revanche. Donc, ça, c'est un point important. Du côté occidental, à l'époque, la priorité, c'était que il y a une prolifération nucléaire, qu'on n'arrive pas à contrôler. À l'époque, on avait encore en vue 86, Tchernobyl. On disait, c'est dangereux. Il y avait en plus les conflits avec l'ex-Yougoslavie. Donc, il fallait absolument régler le problème de la dénucléarisation de l'Ukraine, en contrepartie de quoi, effectivement, vous avez parlé de la Grande-Bretagne, de la Russie, des États-Unis, mais moi j'ai le document, en tant qu'historien justement, c'était important pour moi d'avoir le document signé par le président Mitterrand, d'une lettre envoyée au président Kouchma de l'époque, disant que la France avalisait ce mémorandum de Budapest.
Et la Chine a fait pareil.
Donc ça veut dire qu'on garantit les frontières de l'Ukraine.
Sauf que justement, cette parole donnée, Christine Dugoin-Clément, elle n'a pas été respectée. On n'a pas protégé l'Ukraine. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont justement, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne sais plus quel euphémisme vous aviez utilisé, mais ont aussi peu réagi? Ils n'ont pas réagi du tout, les États-Unis. Pourquoi les États-Unis ont laissé faire?
Il faut reprendre la genèse de le tout début du Maïdan et de la crise quand le conflit a éclaté, notamment dans le Donbass, qui est, ne le perdons pas de vue, qui a aussi servi à être une guerre de diversion qui a permis l'annexion de la Crimée. On parlait de mouvements internes, de populations internes. On a parlé de terrorisme, de séparatisme. Donc ce n'est pas une agression russe, c'était un problème interne. C'est d'ailleurs le narratif qui a été repris par la Russie avec ce que l'on peut entendre comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce genre de choses pour l'appuyer. Mais à partir du moment où vous êtes dans le principe, ce n'est pas vu d'un pays tiers, une agression tiers, mais dû à un mouvement interne de la population, on passait sous le cadran. Et vu que la position russe a toujours été de dire « nous ne sommes pas responsables, nous n'y sommes pas », quand des militaires russes ont été trouvés donc
des petits hommes verts.
Côté ukrainien. Alors, on pourrait parler des petits hommes verts. Là, je pensais plutôt sur la partie Donbass, parce qu'il y en a eu aussi. Il y en a eu des deux côtés. La réponse était assez intéressante, qui était de dire, mais écoutez, ils étaient en permission, ils font ce qu'ils veulent en permission, nous ne sommes donc pas responsables. Bon, on est sur ce principe-là, qui a servi un petit peu à ne pas rentrer dans un conflit ouvert sur lequel nous ne voulions pas aller.
On est avec vous Christine Dugoin-Clément et vous Antoine Arjakovsky dans cette semaine consacrée à l'Ukraine, du Donbass à la Crimée. Stabiliser les frontières, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et vous vous demandez sûrement pourquoi on entend des mouettes maintenant, parce que Sébastopol, en amont du sommet du 9 décembre, la Russie a restitué à l'Ukraine les 3 navires militaires qu'elle avait saisis un an plus tôt au large de la Crimée, après avoir permis justement aux marins de rentrer chez eux. Ces événements ont mis un point final à un incident diplomatique qui fut le point d'orgue de la montée des tensions entre l'Ukraine et la Russie. On va essayer de comprendre comment est arrivée justement cette escalade de tensions sur la mer d'Azov. Et ce que vous entendez là, c'est justement l'ambiance réelle de la vidéo, extraite de la vidéo, où on voit le convoi justement de retour avec les Russes qui rapatrient justement les navires ukrainiens. Pour évoquer cet événement, on va retrouver Igor Delanoé, qui est directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe de Moscou. Igor Delanoé, ce week-end, on a pu voir donc ce remorquage dont on entend là l'ambiance des navires ukrainiens par des gardes-côtes russes, avec le passage de ce convoi sous ce pont construit à grands frais par Moscou pour relier la péninsule à la Russie au niveau du détroit de Kerch. C'est un geste qui a été vu comme un signe de bonne volonté des Russes qui sont disposés à engager le dialogue, mais c'est aussi un symbole qui montre combien Moscou est décidé à régner en maître sur cette mer d'Azov. Pour la Russie, la mer d'Azov, c'est plus que jamais son domaine, Igor Delanoé.
De facto, la Russie a un contrôle total sur la mer d'Azov et en tout cas sur son accès à travers le détroit de Kerch, donc qui relie la mer Noire à la mer d'Azov. Détroit qu'elle contrôle intégralement depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Alors là, les forces navales ukrainiennes, qui étaient déjà bien mal en point avant l'annexion de la Crimée, ont été complètement laminées ensuite par la perte quasiment intégrale, en fait, des capacités qu'elles avaient en Crimée, qui ont été saisies par les Russes lors de l'opération d'annexion. Et finalement, cet arraisonnement des navires ukrainiens en novembre 2018, alors qu'ils tentaient de forcer le détroit de Kerch, finalement, et d'un coup de semonce en plus contre ces capacités navales ukrainiennes qui sont déjà très très diminuées. Leur retour, la remise, la restitution de ces navires aux Ukrainiens ne va clairement pas fondamentalement changer la balance des forces à cet égard-là, clairement pas.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Igor Delanoë, en quelques mots, le contexte un peu général dans lequel ces bateaux ukrainiens ont été confisqués, et finalement, à qui la responsabilité de cet incident ?
Alors, ces bateaux ont été arraisonnés par les gardes-côtes russes alors qu'ils tentaient de franchir le détroit de Kerch, donc le 25 novembre 2018. Alors, pourquoi cette démonstration de force ? Tout d'abord parce que, comme les Russes l'expliquent, les marins ukrainiens ne se sont pas conformés aux instructions et aux procédures mises en place par la Russie unilatéralement pour le franchissement du détroit de Kerch, dont la Russie contrôle désormais les deux rives, hein, aussi bien la rive criméenne depuis donc l'annexion que évidemment la rive côté Russie continentale. Auparavant, il convient de rappeler que la marine ukrainienne avait déjà fait transiter des bateaux de manière pacifique à travers ce détroit, alors même qu'il est sous contrôle de fait de la Russie, dans la mesure où donc les Ukrainiens s'étaient conformés aux instructions données par les Russes. Cette fois-ci, le 25 novembre 2018, ils n'ont pas voulu le faire et n'ont pas souhaité donc attendre que la Russie autorise le franchissement. Ce qui a conduit donc à des escarmouches et, en fin de compte, à la saisie par la Russie de ces bateaux. Alors, qui a raison, qui a tort, à mon avis, bon, là, on pourrait s'engager dans un débat presque sans fin. Je pense que l'objectif des Ukrainiens dans cette histoire-là a été de challenger, en tout cas de remettre en question le statu quo qui s'est établi, une fois de plus, de facto, sur la péninsule criméenne depuis 2014, et par extension, sur le franchissement du détroit de Kerch, et à travers cette opération un peu désespérée, d'attirer l'attention de la communauté internationale, plus particulièrement des Européens, sur la situation que l'Ukraine n'accepte pas, à savoir que l'accès à la mer d'Azov est compliqué et restreinte à cause de la situation dans les trois de Kerch.
Regardons justement comment ça se passait avant ce rattachement ou cette annexion de la Crimée, Igor Delanoë. Il y avait, en 2003, il y a un traité qui a été signé entre la Russie et l'Ukraine qui concernait justement cet accès au détroit de Kerch et à cette mer d'Azov. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'il prévoyait exactement ?
Alors oui, ce traité donc était signé en 2003 par les Russes et les Ukrainiens. Ce traité définit finalement les eaux de la mer d'Azov comme étant des eaux intérieures russes et ukrainiennes. D'une part, et d'autre part, il définit le régime de franchissement du détroit de Kerch comme étant libre et illimité et non contraint pour les bateaux battant pavillon russe et ukrainien. En revanche, il indique très clairement que, en ce qui concerne la délimitation des frontières maritimes en mer d'Azov entre la Russie et l'Ukraine, ces délimitations devront être établies par une commission russo-ukrainienne qui devra être créée de manière ad hoc.
Ce qui n'a jamais été fait.
Ce qui n'a jamais été fait parce que finalement la coutume l'a emporté, en tout cas jusqu'à donc 2014 et même au-delà 2018, dans la mesure où le franchissement de ce détroit, principalement par des navires de pêche et des navires marchands, était jusqu'à un temps finalement pas si lointain, pacifique, non contraint, et se passait, je dirais, en bonne intelligence. Évidemment, le contexte post-annexion d'une part, et puis ensuite la construction du pont de Kerch et les difficultés de circulation et les escarmouches auxquelles on a assisté en mer d'Azov ont changé la donne et ont conduit à l'incident qu'on évoquait auparavant.
Vous disiez, Igor Delanoë, que ce traité de 2003, il prévoit que finalement ces eaux intérieures deviennent des eaux intérieures russes et ukrainiennes. Mais est-ce que cela, c'est en accord avec le droit international ? Est-ce que c'est en accord avec le droit de la mer ?
Alors, le droit de la mer de 1980, donc la Convention de Montego Bay, reconnaît la préexistence de certains régimes spécifiques à des régions maritimes définies et établit que finalement les règles qui prévalent dans ces espaces-là ne rentrent pas en contradiction avec le droit maritime, et finalement que le droit maritime a vocation, le cas échéant, à les compléter, mais que finalement si des régimes fonctionnent et fonctionnent bien, il n'y a aucune raison de les annuler pour établir un peu au forceps le droit maritime international. Si bien que finalement, c'est des régimes qui se superposent, mais qui ne s'excluent pas mutuellement ou ne se contredisent pas. Là, la question, c'est que depuis cet incident de 2018, en tout cas, après cet incident et avant l'élection de Vladimir Zelensky à la présidence ukrainienne, la précédente administration ukrainienne était dans une démarche de dénoncer unilatéralement cet accord de 2003 et de chercher à internationaliser le régime des eaux de la mer d'Azov, afin, par ricochet, d'internationaliser ce conflit un peu plus avec la Russie. Donc dans une logique un petit peu, je dirais, d'escalade sur cette question-là. l'élection de Zelensky a changé la situation, puisque depuis, il semblerait que Kiev ait mis cette question un petit peu de côté pour se focaliser beaucoup plus sur la question du Donbass.
Cette mer d'Azov, Igor Delanoë, elle offre évidemment une ouverture sur la mer Noire qui est particulièrement stratégique. Cette mer Noire partagée par la Turquie, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie et la Géorgie. Et la Russie, évidemment. Jusqu'où cette pleine maîtrise de la mer d'Azov permet justement à la Russie de prendre l'ascendant sur l'ensemble de la mer Noire? Est-ce que désormais, Moscou devient très clairement le premier acteur maritime de la mer Noire?
Alors, l'intérêt pour la Russie d'avoir la maîtrise militaire totale en mer d'Azov, c'est qu'elle n'a pas à redouter, je dirais, de menaces un peu sur son arrière-garde, sur son flanc de la mer d'Azov, qui émanerait d'une quelconque, je dirais, tentative d'attaque ou d'opération de sabotage menée par l'Ukraine dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui suit quand même encore de confrontation entre la Russie et l'Ukraine. Bon, le fait d'avoir la maîtrise totale sur ce théâtre-là lui permet de pouvoir déployer, je dirais, son influence et puis ses différents dispositifs vers la région de la mer Noire où, très clairement, on va dire depuis quelques années, et notamment depuis l'annexion de la Crimée, la Russie a déployé un certain nombre de systèmes de défense. Elle a modernisé sa flotte de la mer Noire qui est principalement basée à Sébastopol mais qui a aussi une base à Novorossiysk sur les côtes russes de la mer Noire et qui aujourd'hui peut clairement avoir une maîtrise de l'espace maritime mer Noire à travers la combinaison de ces différents moyens, à la fois des moyens navals, des moyens de défense anti-aérienne, des capacités aériennes déployées en Crimée, des systèmes de défense déployés aussi sur les côtes criméennes, qui lui permettent de remettre en question une hypothétique et aujourd'hui improbable, je dirais, pénétration d'un adversaire dans la région de la mer Noire pour porter atteinte aux intérêts russes dans la région.
Et comment la Turquie voit-elle tout cela? Turquie, membre de l'OTAN, on le sait bien, mais en même temps, membre de l'OTAN compliqué, puisqu'à la fois alliée de Moscou. Mais comment justement on voit du côté d'Ankara cette montée en puissance de la Russie en mer Noire?
Alors, côté d'Ankara, je dirais que la Turquie déjà, dans ce contexte-là, se considère évidemment comme un membre de l'OTAN, ce qu'elle l'est, mais elle est aussi comme une puissance de la mer Noire, une région avec qui, historiquement, l'Empire ottoman, puis la Turquie, a noué des liens très denses et très importants. Et je dirais que la Turquie, de manière assez réaliste et froide, ne peut que constater la montée en puissance, je dirais, de la Russie, de l'influence russe et des capacités militaires de la Russie dans la région de la mer Noire, qu'elle ne cherche pas à entraver. La Turquie reste la maîtresse des détroits turcs, Bosphore et Dardanelle. C'est véritablement un avantage qui lui est conféré par la Convention de Montreux de 1936.
Ce qui n'empêche pas les navires russes de passer.
Non, parce que le régime qui est défini par la Convention de Montreux permet à la marine russe, des bâtiments de surface, de faire leurs allers-retours entre la mer Noire et la Méditerranée orientale.
Ou même des sous-marins, on en a vu dans le détroit du Bosphore.
Alors, sauf que sur les sous-marins, bon, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a un régime particulier qui s'applique aux sous-marins en fonction du sens dans lequel ils entendent naviguer, autrement dit de la mer Noire à la Méditerranée ou vice-versa. Mmh. Mais il convient de rappeler ici que cette Convention de Montreux de 1936 est véritablement un point de convergence à la fois pour la Russie et pour la Turquie, qui n'entendent en aucun cas la remettre en question et dont ils s'accommodent très bien des termes. Et je dirais, pour terminer sur cette question-là, que pour Ankara, à mon avis, l'idée, c'est de maintenir une forme de statu quo en mer Noire, en tout cas statu quo sécuritaire en mer Noire, dans la mesure où il s'agit peut-être du voisinage turc qui est encore le plus stable, relativement parlant, comparé à ce à quoi on peut assister au Levant en Syrie, toutes les difficultés qu'il y a avec Washington, aux relations encore toujours très compliquées avec l'Europe, celle avec l'OTAN aussi, on l'a un peu rappelé, et des situations toujours potentiellement très volatiles dans le Caucase et dans les Balkans. Donc finalement, le flanc de la mer Noire vu d'Istanbul, à mon sens, est encore celui qui est relativement stable et qu'en tout cas, il ne convient pas de remettre en question cette stabilité relative.
Igor Delanoë, revenons justement en mer d'Azov, sur la frontière ukrainienne, et ça sera peut-être ma dernière question, pour regarder les conséquences de tout cela, de cette montée en puissance de la Russie sur l'activité portuaire de l'Ukraine. Parce que ce pont qui a été construit par la Russie, maintenant il empêche les navires ukrainiens d'aller, navires ukrainiens ou autres d'ailleurs, d'aller charger et décharger sur les ports de ce littoral-là, Mariupol, Berdiansk. Quelles conséquences sur l'activité portuaire, quelles conséquences économiques et sociales pour ces ports et ces régions ?
Effectivement, c'est un argument qui a été mis en avant très régulièrement par les Ukrainiens, qui consiste à dire que finalement le pont de Kerch construit par les Russes est trop bas quelque part et qu'il ne permet pas à des navires qui sont trop hauts de pouvoir circuler librement de la mer Noire à la mer d'Azov. Bon. Au demeurant, les ports de Berdyansk et de Mariupol, effectivement, on subit des préjudices vis-à-vis de la restriction de la navigation dans le détroit de Kerch en 2018, des préjudices d'ordre économique. Toutefois, leur hinterland, c'est-à-dire finalement l'arrière-pays qui est immédiat, qui permet finalement de des interactions entre la mer d'Azov et puis l'arrière-pays de Berdyansk et de Mariupol, est déjà économiquement passablement sinistré, puisque le Donbass est à quelques encablures de Mariupol. Et ces préjudices, évidemment, sont importants, mais de toute manière, économiquement, c'était des régions qui étaient déjà en difficulté et en dépression. Donc, évidemment, si jamais la navigation pouvait reprendre, il semblerait que c'est le cas depuis quelques mois, qu'en tout cas on n'assiste pas à une escalade, mais au contraire à une stabilisation, voire à une désescalade de la situation dans le bassin d'Azov, évidemment ça ne pourrait être que profitable, notamment pour ces deux ports de Berdyansk et Mariupol, enfin, au plan économique.
On ne va pas casser le pont. Donc il y a de toute façon des navires qui ne peuvent plus y aller dans ces ports.
Alors il y a des navires qui ne peuvent plus y aller. Bon, il convient de rappeler que la mer d'Azov, de toute manière, c'est une mer qui est très peu profonde. En moyenne, elle a une profondeur de l'ordre de 5 à 6 mètres de fond en moyenne, donc c'est une mer qui est très peu profonde, c'est une mer qui gèle de manière quasiment intégrale durant l'hiver, ce qui fait que l'activité des ports tourne au ralenti pendant la période de gel. Si bien que de toute façon, ils ont un rythme, je dirais, économique, un rythme de fonctionnement qui est alternatif entre les périodes de libre circulation et les périodes de gel, qui n'est pas remis en question en soi par l'existence du pont ou par son absence. C'est pour la période de circulation qu'évidemment là, ça peut poser un problème. Maintenant, l'autre activité importante dans la mer d'Azov, c'est évidemment l'activité de pêche, ce qui d'ailleurs avait posé à l'origine des problèmes, puisque c'était les navires de pêche qui étaient arraisonnés un peu de part et d'autre, qui faisaient l'objet de contrôles inopinés de part et d'autre de la part des Russes et des Ukrainiens. Bon, là aussi, il y a toute la question de la pêche et l'activité de pêcherie de manière pacifique semble s'être résorbée de fait. En tout cas, on n'assiste plus aux escarmouches auxquelles on a assisté en 2018. Donc, c'était plutôt un bon signe.
Merci beaucoup, Igor Delanoë. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe de Moscou. Merci de nous avoir éclairé sur ce troisième front de la crise ukrainienne et d'être revenu justement donc sur cet événement, cette saisie de trois navires militaires ukrainiens qui sont maintenant revenus à bon port. Enfin, revenus à bon port, Christine Dugoin-Clément, pas tout à fait, parce qu'il manque les toilettes, visiblement, dans les navires. On ne parle que de ça dans les médias.
Mais pourtant, il manque pas que ça. Il manque aussi beaucoup d'armement. Cela dit, c'est beaucoup plus utile d'enlever les toilettes. Ça va exciter toutes les curiosités et on expliquera beaucoup moins le nombre d'armements qui ont été enlevés.
Voilà, Poutine, le prestidigitateur. Oulala, le magicien. Antoine Arjakovski, un grand merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous concernant, vous êtes l'initiateur d'une commission Vérité, Justice et Réconciliation entre la Russie et l'Ukraine avec la médiation de l'Union européenne. J'invite les auditeurs à consulter les conclusions de ce travail, qui est un long travail qui s'était fait en 2018-2019, plusieurs cycles, un très long travail, très utile. On va mettre sur la page de Culture Monde le lien justement des conclusions de tout cela.
C'est très important, il y a 36 propositions et on parle de choses sérieuses. Il faut régler le conflit russo-ukrainien et il faut pour ça mettre des budgets et il faut pour ça prendre des décisions de fond.
Et bien voilà les conclusions sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup à l'un et à l'autre, 11h53, c'est Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Notre époque passe souvent pour particulièrement paisible. Vrai ou faux, Brice ?
Dans La part d'ange en nous, le fameux psychologue Steven Pinker tend à démontrer à l'aide d'une batterie de statistiques que l'humanité n'a jamais été aussi pacifique qu'aujourd'hui, que le spectre de la guerre s'éloigne chaque jour un peu plus. Ce disciple des Lumières est un optimiste qui croit au progrès de la raison. C'est ce qui explique sa myopie, écrivent ce mois-ci dans la revue Foreign Affairs Tanisha Fazal et Paul Post. Obama aussi était le tenant d'un tel optimisme. Souvenez-vous, dans son discours aux Nations Unies de 2016, il déclarait « Notre ordre international, a obtenu un tel succès que nous tenons pour acquis que les grandes puissances ne se combattront plus dans des guerres mondiales, que la fin de la guerre froide a dissipé l'ombre de l'Armageddon nucléaire, les champs de bataille en Europe ont été remplacés par une union pacifique. Eh bien, c'était faire peu de cas de la guerre qui continuait en Afghanistan, de la guerre civile qui faisait rage en Syrie, de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. L'idée que l'humanité a définitivement dépassé l'âge des guerres est basée, selon nos auteurs, sur des évaluations biaisées de ce que sont en réalité la guerre et la paix. Car les véritables indicateurs vont dans le sens contraire de cet optimisme trop beau pour être vrai, toujours selon Fazal et Post. Qu'on meurt moins aujourd'hui que dans les guerres d'autrefois est exact. Durant la Première Guerre mondiale, les armées en présence ont perdu en moyenne, tenez-vous bien, 5000 morts par jour. Et la Seconde Guerre mondiale a fait passer cette effroyable moyenne à 7000 tués par jour, tant civils que militaires. Mais enfin, la plupart des autres guerres connues dans l'histoire duraient beaucoup moins longtemps et causaient beaucoup moins de victimes. Par exemple, tenez, la guerre franco-prussienne de 1870 qui restait gravée dans les mémoires françaises comme une hécatombe. Elle a duré 6 mois. Elle a fait 200 000 morts. Les deux guerres mondiales sont donc exceptionnelles et tout rapporté à ces cas exceptionnels brouille la perspective. La réalité, c'est que la médecine du champ de bataille a fait des progrès considérables. Les médecins militaires évoquent à présent l'heure en or. C'est cette heure qui sépare la blessure reçue sur le champ de bataille de l'arrivée du blessé sur la table d'opération. Avec les moyens dont ils disposent aujourd'hui, la probabilité de lui sauver la vie est considérable. D'ailleurs, le ratio de blessés sur les morts lors des conflits est longtemps resté stable. Il était de 3 blessés pour un mort. Les Américains l'estiment à présent à 10 blessés pour un mort, en ce qui concerne leurs propres forces combattantes.
Mais Brice, pour pouvoir faire bénéficier ces combattants de cette heure en or, il faut disposer de la suprématie aérienne.
Et oui, parce que les blessés doivent être évacués en hélicoptère. C'est le cas dans les guerres asymétriques que livrent les grandes puissances, comme par exemple la France au Mali. Mais cela ne saurait être le cas dans des conflits opposant entre elles des puissances militaires beaucoup plus sérieuses. Dans son livre « Only the Dead », l'historien Beer Bromauler indique que les guerres récentes peuvent en effet avoir été de faible intensité, mais que rien n'indique qu'il s'agit là d'une tendance durable. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. 15 ans, souvenez-vous, avant la... Enfin, vous vous souvenez pas parce que ce personne n'a lu ce bouquin, moi non plus. Mais 15 ans avant le déclenchement de la guerre de 14, il y a eu un livre qui a été un best-seller. Il était dû à un Polonais qui s'appelait Jan Gottlieb Bloch. Il était traduit dans pas mal de langues de plusieurs pays d'Europe. Et qu'est-ce que disait 15 ans avant la guerre de 14 ce monsieur Bloch? Il estimait qu'à l'heure de l'artillerie moderne et de la mitrailleuse, les charges de cavalerie ou de fantassins baïonnettes au canon étaient irréalistes. Et il avait raison. Mais il en déduisait que la guerre entre puissances modernes était impossible, et là il avait tort. Aujourd'hui, nous nous berçons de l'illusion que les capacités destructrices des armes nucléaires rendent leur emploi dans un conflit inconcevable, et donc impossible. Les doctrines d'emploi, tant américaines que russes, obéissent en principe, en théorie, « no first use », pas de première frappe. Celles des autres puissances nucléaires, elles, sont beaucoup moins claires. Et l'asymétrie des forces conventionnelles entre plusieurs d'entre elles pourrait fort bien entraîner un pays vaincu, partiellement envahi, à utiliser en effet la bombe atomique s'il s'estimait menacé dans ses intérêts vitaux. Bref, il faut cesser de tout rapporter aux deux guerres mondiales pour se convaincre que nous vivrions dans une ère de paix durable. Les conflits par procuration entre grandes puissances n'ont jamais cessé. Et les dépenses militaires mondiales sont supérieures aujourd'hui en euros constants à ce qu'elles étaient durant la guerre froide. Conclusion, je la laisse à la juge à la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Elle a dit un jour « Il ne faut pas jeter son parapluie sous l'averse sous prétexte qu'on n'est pas encore mouillé. » Eh bien, il ne faut pas non plus se bercer de l'illusion que le temps des guerres est dépassé.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Eh bien écoutez, voilà, on se retrouve demain, Brice, dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.